Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et là, on est en train de sacrifier cette organisation, mais il y a personne d'autre qui veut mettre l'argent, la main à la poche pour le financer. Donc le problème, c'est que l'Occident devrait encore garder un gros leadership, pas politique ou moral, mais d'un point de vue financier, pour au moins les 20 prochaines années.
Bonjour tout le monde et bienvenue au balado des attachés de presse. Donc, je suis votre animateur Renaud Duval en compagnie de
Mégane Lachance,
qui est notre fidèle collaboratrice ici, qui va aussi co-animer aujourd'hui, vous allez voir. En compagnie de moi, nous avons Félix Suard.
Comme d'habitude, toujours présent.
Et Blaise Vanet.
Bonjour à tous, de retour.
Et donc, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est un chargé de cours ici à l'École de politique appliquée, Jonathan Kuntz. Bienvenue.
Merci, bonjour.
Donc, aujourd'hui, on est là pour discuter de coopération internationale, mais avant d'embarquer directement dans le sujet, est-ce que vous pouvez parler un peu de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce qui vous a amené là-dedans, dans la coopération internationale?
Ouais.
Donc bonjour, je veux déjà vous remercier tous les quatre pour l'invitation cet après-midi. Donc je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et je fais un peu moins d'international depuis 2 ans puisque j'ai eu un petit enfant il y a 2 ans, donc la vie de famille pose d'autres priorités. Mon parcours dans la coopération internationale est assez original, ou du moins c'est une histoire d'opportunité. Au départ, je ne me vouais pas du tout à faire de la coopération. Je voulais être avocat, donc... très classique, j'étais rentré dans une fac de droit et j'avais un professeur de droit qui nous donnait beaucoup de jurisprudence sur la responsabilité civile médicale. Et je me suis dit, c'est ce domaine-là qui m'intéresse et je voulais être le meilleur avocat de France en responsabilité civile médicale. Ouais, très modeste. Et je me suis dit, pour être le meilleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître c'est quoi d'avoir quelqu'un dans les mains puis de poser un diagnostic ou une évaluation et comment faire. Dans une fac de droit, on ne le fait pas du tout. Donc, j'étais frappé au port de la Croix-Rouge, puisqu'en France, la Croix-Rouge fait du réseau, ce sont des ambulances. Et je sais qu'ils forment du monde gratuitement pour faire du réseau. Je me dis, si je fais ça, je vais encore mieux comprendre la réalité des procès de la santé. Donc, je suis entré là-dedans. Première entrevue, donc j'arrive, je suis en costume cravate, bien rasé. La première personne en face de moi pour l'entrevue a des pantacourts, des dreadlocks et un t-shirt troué avec Bob Marley dessus. Et la deuxième personne avait du plâtre sur sa tenue. Donc là, c'est le choc de deux mondes. La première personne qui fait l'entrevue me dit « Bon, Jonathan, pourquoi est-ce que tu veux faire de la Croix-Rouge? Est-ce que les valeurs de la Croix-Rouge te plaisent ?» Et donc, il me tutoie. Moi, je lui réponds en vous voyant. Donc, on va continuer l'écart des perceptions. Et je lui dis « Écoutez, je vais être franc avec vous. Je ne connais pas les valeurs de la Croix-Rouge.
» Ça part bien.
Très, très bien. Et je me suis dit, déjà, il y a un clash vestimentaire, il y a un clash surtout. Je ne suis pas sûr que je vais vraiment leur plaire. Et il me dit, à la fin de l'entrevue, il me dit, regarde, on va te prendre. Si tu n'aimes pas les valeurs de la Croix-Rouge, dans 3 mois, c'est toi qui pars. Si tu aimes les valeurs de la Croix-Rouge, dans 3 mois, tu ne veux plus être avocat. J'ai toujours pas mon barreau.
Ah non. Vous avez commencé vos études, avocat, est-ce que vous avez fini votre bac, dans le fond, là-dedans, mais vous n'avez pas fait le barreau pour pratiquer le métier?
Alors, en France, faut faire un bac et une maîtrise pour avoir le droit de faire le concours pour entrer au barreau. Donc, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. Là, j'ai eu l'opportunité de faire une double maîtrise au Canada, à Sherbrooke, ici. Donc, je suis venu ici, puis la vie continuant. J'ai changé plusieurs fois de projet de vie, mais je suis toujours resté, toujours. Pendant une grosse quinzaine d'années, je suis resté attaché à l'humanitaire et à la coopération internationale.
Puis pourquoi? Dans la Croix-Rouge, qu'est-ce que vous avez fait changer d'idée? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, finalement, en effet, là, j'abandonne l'idée de devenir le plus grand avocat en responsabilité civile en France.
OK. J'ai dit ça, j'ai manqué de modestie à l'époque. Il faut dire ce qui est. Je pense 2 choses. Première chose, j'arrive au moment où il y a une réforme de la loi sur la sécurité civile en France. Puis la Croix-Rouge en France fait du social, de la sécurité civile et de l'humanitaire. Et là où j'étais... un des rares qui faisait du droit et qui savait lire une loi. Donc, je lis la loi, j'explique la loi, puis on me dit, tiens, il y a un poste qui se libère, un poste de directeur local, est-ce que tu veux prendre le poste? Oui, je prends le poste. Et on me demande de réformer des contrats. Donc, je réforme le contrat, plusieurs catégories de contrats,
et je les envoie dans un bureau d'avocat à Paris, qui est notre bureau d'avocat de tutelle, pour regarder si les contrats répondent bien ou non. À l'époque, je faisais peut-être partie des 10% qui a la meilleure note en droit civil, en droit des contrats, donc je ne pensais pas avoir de problème. Et je me reçois une leçon de modestie, avec tout le tact qui est, auquel on s'attend. C'est un contrat comme ça, je ne ferai même pas signer à mon poulet.
Ouais.
Ouch. Okay.
Donc ok, je comprends qu'on fasse un gentleman farmer qui a des poulets, c'est trop bien. Et le contrat, je le réforme à 5-6 reprises, je me fais envoyer bouler systématiquement. Et donc un moment on me dit, bah, écoute, va à Paris, tu vas discuter avec les gens là-haut, je vais à Paris. Puis j'étais reçu de manière un peu sèche, on va dire, où la personne mettait clairement en doute mes compétences.
Typiquement parisien, en fait. c'est un commentaire éditorial que je fais là.
Mais je ne suis pas de Paris, donc on peut dire oui.
D'Alsace, c'est ça?
J'ai fait la moitié de ma vie en France, en Alsace. Enfin, la moitié, une grande partie en Alsace et une grande partie à Montpellier.
Puis moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que, tu sais, vous parliez là, du choc que vous avez reçu pendant l'entrevue. Vous étiez habillé en complet cravate, puis l'autre avec dreadlocks, camisole. Puis encore aujourd'hui, vous êtes en complet cravate, bien rasé. Donc, je me demandais comment que, ben, la cohabitation s'est faite. Est-ce que c'était difficile de s'inclure au début ou ça s'est fait de façon très naturelle et facilement?
Alors, celui qui m'a parrainé, en fait, j'ai eu deux grands parrains, mais le premier qui m'a parrainé, c'est justement celui qui a les dreadlocks. Et là, à un moment, je lui ai dit, mais il s'appelait Karim. J'ai dit, mais Karim, on a... tout nous oppose. Et il me dit, mais tu sais, je t'ai vu arriver en costume. Je dis, cette personne-là a tout mis de son côté dans l'emballage pour briller en entrevue. Donc, tu valais la peine au moins d'être écouté et qu'on te laisse ta chance. Côté vestimentaire, on peut le voir de différentes façons. Côté vestimentaire, il y a un côté peut-être un peu conservateur ou... où je pense que l'apparence ou le vêtement peut être une question de respect. Donc, quand je vais en classe, vous n'êtes pas obligé d'être en classe. Vous n'êtes pas obligé de venir m'écouter pendant 3 heures. Vous pouvez très bien faire toutes les lectures, prendre les notes de quelqu'un d'autre, etc. Mais je pense qu'il y a une question de, au moins de respect vis-à-vis de vous, quel que soit votre statut économique, social, quel que soit vos goûts vestimentaires, mais un minimum de respect pour que je vienne habiller de manière décente ou que je fasse un effort pour vous. Et à la Croix-Rouge, c'était... Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et à la Croix-Rouge, ils acceptent tout le monde, quelles que soient vos valeurs, votre culture, etc. Donc l'idée de j'étais en costume, ça ne les a pas choqués plus que ça. Enfin oui, ça l'a fait bizarre parce que je crois que je suis un des seuls à avoir fait l'entrevue en costume. Moi et les Libanais, parce qu'il y a plusieurs Libanais, puis tous les Libanais étaient en costume tout le temps. Mais ceci mis à part, au fond nous, dès qu'on dépasse le cap d'être homo, c'est qu'on aime les valeurs. Et donc ça transcende le côté vestimentaire, ça transcende tous les côtés là.
Okay. Fait que c'est ça, vous ne voyez pas comme le port de la cravate. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens là, qui voient ça comme une façon d'imposer une vision conservatrice, la domination, mais vous, c'est plus justement une marque de respect. Puis finalement, ça ne veut pas vraiment dire, ça ne décrit pas les valeurs des personnes, puis il peut y avoir une belle cohabitation entre tous les types d'accoutements vestimentaires au final, si les valeurs se rassemblent.
Exactement. Après, je ne pourrais pas reprendre les mots parce que je n'ai pas cette compétence, mais j'avais un prof en France qui était maoïste. Donc, on s'entend qu'il existe un petit quelques degrés à gauche de ça, mais pas beaucoup plus. Et c'était un vrai maoïste pendant la guerre d'Algérie. Il se faisait tabasser, il se faisait envoyer régulièrement à l'hôpital parce qu'il était pour l'Algérie indépendante, dans une fac de droit où les facs de droit étaient plutôt très conservatrices. Et il nous avait tenu un long laïus de 2 heures sur... l'importance de porter la cravate. Et quand il venait en cours, il était tiré à 4 épingles systématiquement alors qu'il était maoïste. Et c'est là où j'enlevais le côté conservateur aux vêtements, à la cravate, etc. Mais je ne pourrais pas vous retenir ses propos parce que, un, ça remonte à plus de 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Et de deux, je n'ai pas son talent ni intellectuel ni oratoire. Mais non, la cravate, j'espère que vous ne le voyez pas en classe comme étant un signe de conservatisme.
Oh,
non, pas du tout. Puis moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, qui m'intéresse comme sujet parce que je suis quelqu'un aussi qui aime bien avoir une apparence soignée, bien m'habiller, mais je m'identifie plus justement aux valeurs de gauche. Je me le fais souvent reprocher. Pourquoi tu portes une chemise? C'est symbole de la domination, des droiteurs conservateurs. Puis ben non, je dis non, c'est juste que j'aime soigner mon apparence, puis mon habillement ne reflète pas mon idéologie. Là. C'est...
Mais si vous permettez, je vais rebondir, puis ça va toucher un peu à la coopération. Je pars du principe qu'il n'y a aucun sujet qui doit être laissé à un bord politique, qu'on soit de droite ou de gauche. Si on laisse un sujet qu'à un groupe politique...
Ça dérape.
Ça dérape, et ça laisse au groupe politique le loisir de choisir l'agenda du tel sujet. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Mais il est question de s'occuper des réfugiés, c'est une question que pour les gens de gauche. » Et je lui ai répondu « Non, s'occuper des réfugiés, ou s'occuper des personnes qui souffrent, qui veulent quitter leur territoire, ça ne doit pas être une question de gauche ou de droite. Ça doit être d'abord une question humaine. Quelles sont mes valeurs humaines que je veux faire par rapport à ces personnes-là? Et après, l'idéologie gauche-droite, c'est la méthodologie que je vais appliquer. Mmh. Ce qui va amener à des résultats parfois semblables, parfois divergents. Mais je pense que le danger, quelles que soient nos opinions politiques, c'est de laisser un sujet à quelqu'un d'autre, que ce soit aussi important que la coopération, que le port d'une chemise, une cravate ou quoi que ce soit. Et le prof en question disait, la raison pour laquelle il disait qu'il fallait porter des cravates ou qu'il ne fallait pas avoir honte de porter ça, il disait, si à un moment vous avez besoin d'aller chercher de l'argent, bah, regardez c'est qui votre public en face et comment la personne va être habillée en face. Et des fois, je cherchais de l'argent et je mettais un jean bien pourri et un polo, parce que la personne va s'attendre que ah, il fait de l'humanitaire ou de la coopération, donc il est habillé n'importe comment. Et il y a des fois, quand je cherchais de l'argent, je suis en costume cravate et j'ai déjà fait des galas où j'étais en smoking. Mmh. Donc ça va dans tous les spectres. Très peu de gens savent pour qui je vote et comment je vote. Généralement, les gens de gauche pensent que je suis à gauche, beaucoup de gens à droite pensent que je suis à droite. Donc, tout le monde m'aime, donc c'est parfait.
Est-ce qu'on va avoir l'exclusivité aujourd'hui à l'émission?
Oh.
Mais après, le vêtement, c'est... Pour moi, c'est un, à ce qu'on est bien dedans, puis deux, à ce que c'est un vêtement qui correspond à ce que je veux faire. Mm-hmm. Donc, si je veux chercher de l'argent, est-ce que la personne s'attend à ce que je suis en uniforme ou en jean, ou est-ce que la personne s'attend à ce que je suis en costume? Je viens en classe, je pars du principe que je vais m'habiller pour vous, je ne vais pas être habillé comme je suis tous les jours, parce que je vous dois du respect, et pas qu'un minimum.
Pour revenir, c'est ça, au sujet de la coopération internationale, plus globalement, qu'est-ce que vous parce que ça a l'air très large et un peu flou pour des gens qui ne sont pas initiés à la coopération internationale. Est-ce que c'est un synonyme d'humanitaire? C'est quoi en gros la coopération internationale?
Vous mentionnez, là, vous dites de l'humanitaire et de la coopération internationale. Fait que j'en déduis qu'il y a une différence entre les deux. Ce serait quoi cette différence-là, en fait?
Alors, je vais vous donner une définition un peu large. La définition va un peu changer en fonction des personnes. L'humanitaire, c'est que vous avez une crise, que ce soit une guerre comme en Palestine en ce moment ou en Ukraine, que ce soit un tremblement de terre comme nous avons pu connaître au Maroc ou en Turquie, que ce soit des famines. Enfin, vous avez une crise et l'humanitaire, c'est généralement une action très courte. L'ONU dit que ce sont des actions qui vont jusqu'à 24 mois maximum ou qui peuvent être poussées à 36 mois. Mais généralement, l'humanitaire, on va compter de 3 mois à 2 ans. Okay. Donc, vous avez des personnes qui sont en train de souffrir, dont la survie est menacée maintenant à cause d'une cause, en raison d'une cause, d'un risque quelconque. La coopération internationale, c'est souvent amené à développer des régions ou à développer des communautés. Quand je dis développer, c'est leur apporter... des outils ou de les accompagner pour qu'ils puissent avoir un meilleur niveau de vie, pour qu'ils puissent avoir un meilleur niveau pour s'émanciper, etc.
Mais, par exemple, dans le cas de, justement, on en a parlé brièvement, mais Palestine-Israël, ça dure depuis des années. Est-ce que les événements du 7 octobre ont démarré vraiment une guerre, une crise, là, fait que ça serait de la crise une crise humanitaire, dans le fond, donc de l'aide humanitaire, mais si on parle de l'aide qui est là depuis à peu près 20 ans, c'est de la coopération internationale ou ça reste de l'humanitaire? Est-ce que c'est concret ce que je dis un peu?
Oui, en fait, le cas du Proche-Orient, c'est excessivement complexe.
Oui, hein, c'est ça.
Mais donc, mettons qu'on parlerait de, pour un cas peut-être plus simple, si on pense, mettons, à des pays du Sahel comme le Tchad, l'Éthiopie, la Somalie, qui vivent de façon semi-structurelle des crises humanitaires. On pense par exemple aussi au Soudan du Sud, des pays comme ça, ou Haïti, où il y a comme un état d'instabilité très, très fort. C'est ça, l'humanitaire, c'est plus juste une affaire de 2 ans, là.
Non, effectivement. Mais après, là, ce sont des crises qui se répètent. Okay. Et donc là, on rentre dans un peu la zone grise entre les deux, de quand est-ce que l'humanitaire s'arrête, quand est-ce que l'aide au développement continue. Normalement, l'idée serait la suivante, j'emploie le conditionnel, dès que la personne, sa vie ou sa santé n'est plus menacée à court terme, on n'est plus dans l'humanitaire, on serait dans l'aide au développement. Et virtuellement, l'aide au développement ou la coopération, c'est d'apporter des réponses à du très long terme. Donc, je vais caricaturer. Je prends une infirmière ou un infirmier qui va partir sur le terrain, dont le but va faire des actes de soins, donc de soins infirmiers, pour sauver une vie tout de suite. Ça, ce sera a priori de l'humanitaire. Je prendrai la même personne que j'enverrai sur place pour faire de la vaccination, pour faire de la prévention ou de l'éducation à la santé. Là, ce serait de l'aide au développement. Mmh. Ou de la coopération.
Est-ce que les organismes là, qui font, par exemple, l'aide humanitaire, la coopération, est-ce que ce sont les mêmes ou c'est différent?
Alors, vous avez tout est imaginable. La Croix-Rouge est un réseau, donc dans chaque pays, il y a un une Croix-Rouge ou un Croissant-Rouge. Et c'est, ce site national font les deux. Généralement, elles font et de l'humanitaire et de la coopération. Oxfam fait les deux. Il y en a plein qui font les deux. Mais après, il y a beaucoup d'organisations qui se développent, enfin qui se développent, qui se spécialisent dans un domaine plutôt que l'autre. Humainement, ce n'est pas du tout la même mentalité. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, essaye depuis plusieurs années de fusionner les deux.
Okay.
De dire que c'est le même type d'action. Le problème, c'est que ce ne sont pas les mêmes types de personnes, ce n'est pas le même type d'intérêt. Si je fais une caricature, souvent, les gens qui font de la coopération vont traiter les personnes qui font de l'humanitaire de cow-boy. Pourquoi de cow-boy ? C'est, il y a une crise, on arrive, on fait notre action, on ne se soucie pas au long terme, on repart. Mmh. Alors que les personnes qui font de l'humanitaire vont beaucoup plus avoir à travailler avec le côté humain. Je ne dis pas que dans l'humanitaire, on ne travaille pas du tout avec l'humain, mais on va avoir une plus grande discussion sur l'humain. Je vais recaricaturer, je vais prendre le cas de la Palestine. Là, aujourd'hui, on parle de 883 000 réfugiés, du moins, c'est le chiffre de ce matin, qui étaient à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Donc, pour les loger, les héberger, etc., ça va être une question humanitaire. Donc là, je n'ai pas le temps de parler, de dire bonjour, moi, c'est Jonathan, quels sont vos besoins ? Je vais arriver, c'est est-ce que vous avez de quoi vous loger ? Est-ce que vous avez de quoi vous nourrir ? Oui, non. Je vais offrir ça. Quand la guerre va s'arrêter, je ne sais pas quand elle va s'arrêter ce soir, mais j'ai des gros doutes, mais quand la guerre va s'arrêter, moi, je vais dire au revoir, bye. Et il y a une autre personne qui va arriver qui va dire, OK, vous, vous habitiez où ? Votre maison. OK, vous avez quoi comme travail ? C'est quoi vos revenus ? Donc là, on va plus rentrer dans l'intimité des gens.
Okay.
Et dans la phase humanitaire, je vous ai pris un exemple, vous m'excuserez, mais dans la phase humanitaire, vous, c'est pas forcément rentrer dans l'intimité qui va vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est est-ce qu'on répond à mes besoins ? Est-ce que je peux passer la fin de la journée ? Est-ce que je peux passer la semaine ? Etc. Dans la coopération, va y avoir un côté plus humain, plus d'échange qui va être beaucoup plus important. D'où la caricature qu'on entend des fois de dire « Ah, mais dans l'humanitaire, ce sont des cow-boys. » J'ai commencé dans l'humanitaire. Je ne trouve pas cow-boy particulièrement, mais...
Ça provient de là, j'imagine. C'est beaucoup, là, je pense que Blaise en avait déjà parlé à un moment donné, là, mais du white savior complexe, on entend parler souvent des personnes blanches qui se disent « Je vais sauver le monde en me rendant quelque part et dire « Voilà, je suis là », puis qui stack son camp après quelques mois. » Ça provient, j'imagine, de l'aide humanitaire. Là, c'est cette vision plutôt que la coopération.
Alors, dans les années 70, ça venait des deux.
OK.
Dans les années 70, il y avait vraiment le syndrome du sauveur et c'était vraiment « j'arrive, je fais ce que je veux faire et je repars » sans se soucier de qu'est-ce qui va arriver une fois que je serai parti.
Qu'est-ce qui a changé Vous parlez des années 70 précisément et est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité durant les années 80-90 ou...
Oui, il y a eu des changements, je dirais peut-être pour trois raisons. Première raison, c'est que maintenant nous avons eu les crises pétrolières entre-temps. Donc, ça remonte un peu loin, les crises. C'est avant ma naissance, mais ça a eu un impact important. Avant les crises pétrolières, c'était l'argent coulé à flot. Donc, vous allez faire de l'humanitaire ou de l'aide au développement, je balance de l'argent, je ne regarde pas le retour sur investissement. Après les crises pétrolières, l'argent commençait à être limité. Donc, il y a eu les crises pétrolières, mais il y a eu d'autres enjeux aussi, comme le containment, etc. Où, donc là, on a voulu que l'argent investi soit utilisé de la manière la plus efficace possible et des conséquences positives le plus longtemps possible. Donc, ce n'est pas arrivé d'un coup après les crises pétrolières, mais c'est un cheminement intellectuel qui s'est construit, je dirais, jusqu'à 2012.
Quel pays ou quelle région genre du monde on pourrait identifier comme ceux-là qui sont comme les espèces de leaders, là, ceux-là qui font plus d'aide humanitaire et de coopération internationale? Est-ce que déjà, ça existe? Est-ce que c'est comme une hégémonie? En même temps, je pense par exemple aux Américains qui font beaucoup d'aide humanitaire ou en tout cas... qu'il y a eu beaucoup de cuts avec Haïti, notamment, puis des trucs comme ça, ou c'est comme vraiment généralisé, puis...
Il y a eu un quasi-monopole jusqu'aux années 2000-2010 de l'Occident.
Ouais.
Un quasi-monopole. Une...
Forte présence.
Forte présence, une présence massive de l'Occident. Dans les années 2000-2010, a commencé à se développer, à s'organiser dans le monde arabo-musulman, des organisations soit reliées à la religion musulmane, soit indépendantes, mais qui vont prendre comme certaines valeurs religieuses de solidarité.
Okay.
Et donc là, de plus en plus, on voit, comme Islamic Relief ou autres, des organisations humanitaires ou d'aide au développement qui ne sont pas occidentales.
Okay.
La Chine essaie de développer le sien. Le Japon a beaucoup développé le sien, mais le Japon surtout était raccroché à l'Europe, ou du moins était considéré comme étant occidental, bien que ce soit un pays asiatique. Beaucoup de pays aimeraient faire de l'aide aussi internationale. Le gros problème qu'il va y avoir, ce sont des questions de financement et de capacité de financer. Ça, c'est déjà un premier enjeu. Et l'autre enjeu, c'est qu'il y a déjà des grosses structures qui existent sur place, qui existent sur la scène internationale et c'est dur de les déloger ou de prendre la place de ces grosses structures. Je prends l'exemple de la Croix-Rouge, enfin, je prends un exemple quelconque, mais imagine une catastrophe demain. Il faut chercher de l'argent auprès des États et auprès des bailleurs de fonds privés. Oxfam, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières sont capables de mobiliser des centaines de personnes pour chercher de l'argent, voire des milliers de personnes. Vous venez d'un pays non occidental, vous êtes en train de créer votre structure, vous allez rentrer en concurrence nécessairement avec ces organisations-là. Donc, en termes d'organisation, c'est dur pour que des organisations du Sud arrivent, ou non occidentales, arrivent à prendre la place. Humainement, si vous permettez juste 15 secondes, j'ai tendance à dire que sur le terrain, en termes de surreprésentation, oui, il y a beaucoup d'Occidentaux, mais humainement, j'ai eu beaucoup de Perses et beaucoup de Libanais. En termes de surreprésentation, c'est impressionnant.
En fait, ce que vous venez de dire sur les bailleurs de fonds et tout ça, c'est que dans le fond, un aspect de l'humanitaire et de la coopération nationale, c'est d'être sur le terrain, aider les gens concrètement, tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect d'aller chercher de l'argent à travers bâtir des réseaux. Est-ce qu'il y a un côté, disons, un peu... Sans vouloir le dire péjorativement, un peu affairiste qui s'est développé dans le domaine de la coopération internationale. Vous voyez ce que je veux dire avec les bailleurs de fonds privés que vous mentionnez. Alors, il faut aller chercher ces contacts-là.
On peut l'évaluer comme on veut. On peut l'évaluer comme on veut. Ça peut être... Si vous aimez ça, c'est pas négatif. Si vous détestez ça, ça peut être négatif. C'est au pire des cas un mal nécessaire. Et oui, les structures de société étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas le choix que de regarder qu'est-ce qui est efficace pour aller chercher de l'argent. Donc maintenant, moi j'ai un petit réseau, mais vous prenez quelqu'un qui a été qui a travaillé pour une banque d'affaires pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette personne aura un réseau qui sera 100 fois plus gros que le mien. Donc si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent, cette personne sera plus intéressante que moi. Mais à contrario, moi j'ai un réseau qui est beaucoup plus intéressant que d'autres personnes. Donc en fait, c'est le réseau est nécessaire, qu'on le veuille ou non, pour aller chercher de l'argent. Le réseau est nécessaire aussi pour faire de la pression, pour faire changer les choses. Je donne un petit exemple. Les mines antipersonnelles, c'est un chaos. Une mine antipersonnelle, on la pose quelque part et on a tendance à oublier où aller me poser. Faire les plans où est-ce qu'on a posé les mines, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout dans les films qu'on voit ça. Et quand il y a un plan, le terrain, ça bouge. Donc votre mine, elle se déplace. Et les mines antipersonnelles, les derniers modèles, c'était recouverts de plastique roux, jaune vif, etc. J'ai plus les statistiques pour les mines antipersonnelles, mais ça se rapprochait des bombes à sous-munitions. Dans les bombes à sous-munitions, 98% des victimes sont des civils. Et la majorité des victimes civiles sont des enfants. Mmh. Et donc, les mines antipersonnelles, c'est Handicap International, qui maintenant c'est Handicap et Inclusion, qui a fait beaucoup de lobbying à l'époque, qui a utilisé tout son réseau pour faire adopter une convention internationale. Ils ont joué avec le Canada. Le Canada a dit « Ah, ça nous intéresse ». Et en 97, on a une convention internationale qui interdit les mines antipersonnelles. Bon, la Chine, les États-Unis, la Russie, on en a encore. Mais l'immense majorité des États les ont abandonnés. Donc oui, ça fait risque. Oui, les discussions qu'il y a eu, c'est du lobbying, même que lobbying sale, que quelqu'un qui veut vendre des engrais cancérigènes. C'est le même type de lobbying. Ce sont les mêmes outils, hein, qu'on le veuille ou non. Ce sont les mêmes compétences qu'on va avoir besoin. À part que d'un côté, on peut peut-être avoir l'orgueil de se dire « j'ai sauvé des vies
». Puis, tu sais, vous avez mentionné, au pire, c'est le moindre mal, le côté affairiste. Puis j'aimerais entendre votre avis sur... On parle souvent que la coopération internationale puis l'aide humanitaire, ça ne règle pas réellement les problèmes puisque ça crée un lien vraiment de dépendance entre les pays en développement puis les pays développés qui envoient des gens sur le terrain. Est-ce que vous voyez encore une fois ça comme un moindre mal de... Oui, ça crée une dépendance, mais au moins on est là pour les aider, puis si on n'est pas là, qui va le faire? Ou vous voyez peut-être comme une alternative à ce système-là qui... Puis je pense que de nos jours, c'est de mieux en mieux, là, mais qui permettrait une plus grande indépendance à ces pays-là plutôt que de toujours être obligé de dépendre des pays comme le Canada, les États-Unis ou le Japon, par exemple.
Alors, à titre personnel, je pense partager l'opinion de tout le monde ici. Je suis contre de créer un lien de dépendance. Maintenant, il y a plusieurs considérations à prendre. L'aide au développement ou la coopération internationale demeure un outil. Puis cet outil, on en fait ce qu'on a envie d'en faire. C'est le premier point. On peut l'utiliser pour contrôler un État. On peut l'utiliser pour maintenir un pays dans un état de dépendance. On peut l'utiliser comme étant une concurrence diplomatique. Mais donc là, c'est un outil qui serait dévoyé, qui serait utilisé pour les mauvaises raisons. Mais l'outil peut être aussi utilisé... Enfin, il peut aussi y avoir une mauvaise utilisation de l'outil avec un bon fond. Donc, Il faut réfléchir sur qu'est-ce que je veux à cet outil et comment je vais l'utiliser de la bonne façon. Là, il y a deux grandes lignes. La ligne de l'État. L'État va donner de l'argent. Je prends un bailleur de fonds publics. Cet argent, admettons que le Canada donne de l'argent, c'est l'argent de tout le monde ici autour de la table et des personnes qui nous écoutent. Ça vient de nos impôts. Donc nous, en tant que peuple qui vit au Canada, on a le droit de demander où va notre argent, où va nos impôts. Et l'État a une obligation quelque part de reddition de compte. Et donc l'État qui reçoit ou l'organisation qui utilise doit avoir une reddition de compte. Ça, ça a tendance aussi à accentuer le lien de dépendance. Il y a une autre façon de voir les choses, mais il y a un autre angle aussi à voir. Je vais reprendre ce que disait Ngo Humbert. Donc Ngo Humbert, c'était le fondateur de Médecins du Monde Suisse. Et pendant longtemps, il était... il travaillait à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et lui, il disait, il y a trois questions à se poser. Donc lui, cette question-là, il se le posait pour aller sur le terrain, mais je pense qu'on peut se les poser dans l'aide au développement dans tous les cas. La première question, c'est est-ce qu'on a besoin de moi ? Moi, en tant qu'individu, est-ce qu'on a besoin de ma compétence ? Est-ce qu'on a besoin de mon argent ? Est-ce qu'on a besoin de moi ? Et on a pu le voir, le Maroc a eu un tremblement de terre en septembre-octobre, et le Maroc a dit à plein de pays, ne venez pas. J'ai pas besoin de votre argent, j'ai pas besoin de votre aide. Ça a été mal perçu, ça a été mal compris, ça a été critiqué, mais le Maroc est souverain, il a le droit de dire non. Donc première question, c'est est-ce qu'on a besoin de moi ? Si on n'a pas besoin de moi, ça sert à rien que j'y aille. Deuxième question, c'est est-ce qu'on m'attend ? C'est-à-dire que si j'y vais, avec mon argent ou avec mes compétences, est-ce que je vais pas créer une dépendance indue ? Est-ce que je ne vais pas déstabiliser l'organisation des secours sur place ? Est-ce que je ne vais pas faire un appel d'air ou un problème quelconque ? Et la troisième question, c'est comment je repars ? Le comment je repars, c'est est-ce que j'ai créé une dépendance en partant ? Est-ce que ça n'a pas créé une nouvelle crise ? Est-ce que j'ai détruit le marché économique local ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que quand je repars, est-ce que tous les effets négatifs vont disparaître ? Est-ce que les effets positifs vont rester à long terme ? Donc, ma perception, puis là je donne vraiment mon point de vue personnel, c'est que dans l'aide au développement ou la coopération internationale, si on ne se pose pas ces trois questions-là, on risque de maintenir un lien de dépendance, on risque d'avoir beaucoup plus d'effets secondaires négatifs que de bienfaits qu'on peut apporter. Et ce serait, à mon sens, un mal et qui ne serait pas nécessaire du tout, en fait.
Puis c'est ça, moi, je constate qu'il devrait avoir, coopération humanitaire, oui, aide humanitaire, mais il devrait, pour les gens qui vont sur le terrain, parce que vous avez travaillé auprès d'ONG, puis peut-être du gouvernement, avec des instances beaucoup plus sérieuses, mais moi, mon école secondaire, par exemple, puis c'était très populaire toutes les années, voyage humanitaire au Guatemala, on va construire, peinturer des murs, construire des écoles. Puis on sait que, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires négatifs vis-à-vis de ça, dans le sens que c'est une aide très temporaire, même que tu n'apportes presque pas d'aide. Parce que
c'est comme symbolique, c'est pour te réconforter.
C'est pas ce que tu fais, donc tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de bonne conscience qu'on se donne, mais qu'au final, c'est que une excuse pour aller voyager dans un pays, dans un pays exotique. Là.
Mais en fait, moi, je le retournerais différemment le problème. Là, vous avez décrit un phénomène qui est le tourisme humanitaire. Vous en parlez à votre école, ce cégep au secondaire, on le voit dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on propose une action. Parce qu'un cégep, une école, un lycée, un groupe de personnes, un groupe de retraités, un groupe de ce qu'on veut propose une action. Pour moi, oui, ce serait bien qu'on offre une éducation derrière, mais ça poserait d'autres problèmes derrière. Quelle éducation, quelle formation, quel angle on donnerait ? Mon point de vue, dans certains cas, il est majoritaire, dans d'autres cas, il n'est pas. Est-ce que c'est moi qui ai raison ? Je ne suis pas certain d'avoir toujours raison. C'est pour ça que je faisais des soirées humanitaires une fois par an, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour présenter plein d'autres personnes qui font de l'humanitaire pour donner des points de vue différents du mien. Donc, sont pour la plupart des amis à moi, on sait sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord, mais je vais élargir ça. Pour moi, en fait, le vrai enjeu ne serait pas de former des personnes ici, même si ce serait vraiment une bonne idée, mais ce serait de permettre au pays qui reçoit de pouvoir dire non, de pouvoir exercer sa souveraineté. Parce que peut-être que notre action qu'on veut faire, si vous me donnez mon avis, je vais peut-être dire que cette action est ridicule, mais elle répondrait peut-être à un besoin réel quelque part, et un pays en aurait réellement besoin. Ici, on ne m'écoute que moi. On va dire, bon, cette action, on ne la fait pas, cette action, on l'a fait. Je ne connais pas la réalité du terrain partout. Je pourrais vous donner un enjeu d'aide au développement très ridicule, construire des toilettes dans une école. J'ai été chercher des bailleurs de fonds. C'est excessivement compliqué pour financer des toilettes dans des écoles. La région à laquelle je pense, il n'y a pas de mur. En fait, vous avez les toilettes, mais il n'y a pas de mur séparateur. Et donc, dès que les jeunes filles ont 5 ans, les parents ne veulent plus envoyer des filles à l'école à cause de ça. Et donc là, quand j'ai des bailleurs de fonds, il faut juste payer, ça ne coûte pas une fortune, payer des murs pour des toilettes. Les bailleurs de fonds disent, mais ce n'est pas une priorité.
Ouais, mais ça engendre des conséquences
majeures
sur le taux d'éducation.
Ouais. Puis moi, au début, on m'a dit qu'il faut de l'argent pour payer des toilettes. Dans ma tête, ce n'était pas non plus une priorité. Mais quand j'ai vu les photos, quand on m'a donné la liste des jeunes filles qui ont quitté l'école, quand j'ai fait des WhatsApp avec les personnes sur place, là, j'ai pris conscience. Donc, moi, je suis un mauvais exemple pour dire c'est une bonne chose ou pas. Et je pense que toute personne au Canada est un mauvais exemple pour dire faut y aller ou pas. Donc, je n'ai pas envie d'entraver quelqu'un qui aurait une idée qui, à mon sens, serait peut-être ridicule, mais qui répondrait à un besoin réel. C'est pour ça que je dis que ce serait le pays. Il faudrait donner la réelle opportunité au pays récepteur de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Comment on le fait?
C'est ça. Par exemple, il y a moi puis Megan. Au mois de mai, on va faire un voyage en coopération internationale au Maroc avec Yannick Daoudi puis Nadine. Puis moi, avant d'y aller, c'est ça, j'ai eu cette grande réflexion-là dans le mode, je ne vais pas encourager le white savior complexe, créer une relation de dépendance, mais justement, notre premier cours, c'est Yannick qui nous a fait une présentation orale complète de l'importance d'avoir des discussions, puis avant d'y aller, c'est de vraiment, comme vous dites, donner la possibilité au pays de dire non, mais surtout que ce soit les personnes à l'étranger, le pays qui nous accueille, qui nous envoie leurs requêtes, qu'est-ce que vous avez besoin et tout. Puis moi, ce qui m'a vraiment rassuré, c'est qu'au préalable, avant d'y aller, tu sais, là, on est au mois de mai, on a un cours au complet là, qui vaut 3 crédits, donc c'est quand même demandant. C'est un cours préparation au terrain Maroc. Donc, on a vraiment un enjeu, une vision globale, puis des orientations claires de nos actions. Puis moi, je trouve ça, en tout cas, de mon point de vue, là, essentiel pour si on veut apporter une aide pertinente.
Oui, puis je pense aussi ce qui fait la différence, c'est que quand on va aller dans les organismes, on n'y va pas à titre, on va faire des actions concrètes, mais on va observer, discuter avec eux pour par la suite être capable de déceler ben, ça serait quoi le besoin. T'sais, on ne fait pas le voyage en se disant, on arrive là, on va changer les choses, on va tout
apporter, on va tout peinturer.
On va tout peinturer. C'est ça, on arrive là, puis c'est comme, OK, ben, sur le terrain, quand on leur parle, c'est quoi? Parce que justement, on veut comparer ben, avec le cours qu'on a fait avant au Québec, enseigné par notre prof, est-ce que c'est-tu réellement comme ça, rendu là-bas? Donc, ça va nous permettre de faire un peu la comparaison puis de ne pas se lancer. Je pense que ça, c'est mieux adapté, là, comme tu disais, là, justement, parce que ça nous permet d'aller sur le terrain, de leur demander à eux c'est quoi les besoins, c'est quoi qu'ils voudraient avoir avant de faire quelque chose qui pourrait peut-être servir à rien. T'sais, je pense qu'au fameux projet du... le projet à Madagascar qui a eu cette session, ils sont allés construire un puits, si je ne me trompe pas. Et là, plusieurs se sont questionnés parce que le puits qu'on construit, c'est super utile là, quand la saison, quand ça tout s'assèche, puis ils n'ont plus d'eau, ben ils vont pouvoir avoir le puits pour avoir leur eau courante. Mais ça fait des années qu'avec les changements climatiques, il y a une grosse saison de pluie, des choses là qui fait que, ben en fait, ils n'ont jamais la période de temps qu'ils n'ont plus d'eau. Fait que là, ils se posaient la question, c'est-tu pertinent ce qu'on venait de faire? D'aller construire quelque chose en se disant « Ah, ben ça va être super utile, mais rendu là-bas... » Puis c'est rendu sur le terrain en parlant avec les personnes qui ont réalisé ben ce qu'on fait, finalement, va peut-être servir à rien avant 5 ans, puis par la suite, va peut-être servir dans un autre 5 ans par la suite, tu sais.
Puis est-ce que vous aviez déjà une expérience sur le terrain de justement se sentir comme un peu un imposteur, pas trop bien accueilli, ou ça s'est toujours bien déroulé?
Moi, ça s'est toujours bien déroulé parce qu'on a toujours bien préparé mon départ ou bien préparé mes arrivées. Je me suis toujours senti comme un imposteur. Je suis né, j'ai grandi en Europe. J'ai étudié dans plusieurs pays, mais j'avais plusieurs pays occidentaux. Mais donc, je ne connais pas forcément les réalités sur place. Et on a beau lire les réalités, il y a plein de choses qu'on ne réalise pas tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne le vit pas. Deuxième chose, il y a un besoin. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est quoi le besoin? Est-ce qu'on répond au besoin, etc. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment je réponds à ce besoin-là sans changer la donne économiquement ou socialement? C'est quelque chose qui est important. Une action ou un stage ou une opération qui dure 1, 2, 3 mois, à la limite, ça va. Mais une opération qui dure plus de 6 mois, je vous donne un exemple très stupide, c'est le pouvoir d'achat. Par exemple, au Bénin, j'ai eu un per diem. Donc, c'était une somme qu'on me donnait par jour, en plus de mon salaire. Le per diem était supérieur au salaire mensuel d'une personne médiane au Bénin. Et j'avais ce pouvoir d'achat-là. Donc, ça va. Une des fois, j'étais seul, donc je n'allais pas détruire ou casser le marché de l'emploi, etc. Maintenant, imaginons qu'on déploie des personnes pour construire tout un réseau d'irrigation des terres. Imaginons que ces personnes, en plus, le per diem que j'avais n'était pas énorme. Imaginons que ces personnes en donnent le même per diem ou un per diem supérieur au mien et qu'elles restent 2 ans sur place. En 2 ans sur place, ça va détruire tout le marché économique et ça va paupériser la population encore plus. En Haïti, une des raisons... Non, là, c'est plus un effet qui va alourdir, qui va aggraver la situation. C'est aussi le pouvoir d'achat des personnes humanitaires comptées sur place ou d'aide au développement comptées sur place. Donc là, on peut bien cibler un besoin, mais en arrivant, ma simple présence peut arriver à déstabiliser quelque chose. Ma simple présence peut arriver puis faire ressortir des tensions dans des groupes ou autres. Je vais donner un exemple très, très, très stupide. C'est une de mes amies qui m'a raconté ça. Elle est avocate et elle travaille dans tout ce qui est question de genre et droits des femmes. Et donc, à un moment, elle part pendant 18 mois dans un pays, puis là, elle fait énormément de conférences, elle part dans des régions éloignées pour le droit des femmes, l'égalité des genres et l'expression de genre. Et quand elle part, elle fait son rapport, elle dit assez bien, avant que j'arrive, personne n'osait dire que les personnes étaient membres de la communauté LGBT. Là, maintenant, il y a 11 ou 12 personnes qui se revendiquent de la communauté LGBTQ+. Et les femmes commencent à prendre plus d'autonomie. Elle part, donc elle revient au Canada. 3 mois après, elle apprend que toutes les personnes qui se revendiquent LGBT ont été assassinées. Mmh. Oh, donc tant qu'elle était là, ça allait bien. Puis elle leur a dit, oui, regardez, c'est important de s'écouter, c'est important d'exprimer ses droits, etc. Puis il y a eu tout le monde jouait le jeu. Et tout le monde jouait le jeu. Et c'était pas d'hypocrisie, c'était tout le monde voulait jouer le jeu.
Mmh. C'est juste qu'il y a eu un backlash après.
Il y a le backlash qui est arrivé.
Puis c'est ça. Vous avez parlé, le troisième important, bien se préparer sur le terrain, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi? Puis là, vous parliez justement des conséquences qui peuvent être désastreuses d'une retraite dans un pays qui est mal effectué. Est-ce que, je ne sais pas, vous aviez des exemples ou des conseils pour effectuer comme la retraite d'un pays pour que ça se passe bien puis pour qu'il n'y ait pas de backlash énorme comme celui-là?
Premier truc, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est de regarder c'est quoi l'anthropologie et les valeurs locales. C'est excessivement important et il ne faut pas apporter un jugement de valeur. Il y a des choses qui vont être faites, qui vont me traumatiser ou vice-versa, etc. Mais il ne faut pas apporter de jugement de valeur. Il faut juste l'étudier, le regarder pour se dire, OK, quand je vais partir, comment le système social va reprendre sa place? Donc je pourrais promouvoir, je pense à certaines régions du monde où je pourrais promouvoir les communautés LGBT. Tant que je vais être là, ça va très bien se passer. Mais je sais que le jour où je ne serai plus là, ça va revenir comme c'était avant et le backlash peut être plus ou moins violent. On peut le voir dans plusieurs régions du monde, notamment. Donc, c'est de regarder comment sociologiquement ou anthropologiquement les personnes vont vivre avec ça. Et enfin, regarder à ce que les personnes peuvent utiliser ce que je vais laisser sur place. Mmh. Donc, pouvoir utiliser, ça peut paraître assez bizarre, mais c'est est-ce qu'elles ont la compétence technique ? Ça peut paraître ridicule, mais je laisse un scanner, par exemple, pour faire des scans de médecine. Est-ce qu'on sait l'utiliser? Vous aimez bien un scanner, on peut vite apprendre en 2-3 heures. Mais comment je l'entretiens derrière? Parce que le scanner, si je l'entretiens pas, la personne que je vais passer, je vais l'irradier. Si c'est une personne enceinte, je vais tuer l'embryon, le fœtus dedans. Mais mal entretenu, ça donne ça réellement. Mais après, derrière, il y a aussi la question de est-ce que je laisse l'argent? Il y a un projet sur lequel j'avais travaillé, c'était de refinancer 3 écoles en Haïti. Donc c'était bien beau, etc., de le refinancer. Mais moi, j'ai posé une condition. J'ai dit, je travaille sur ce projet-là que si on nous garantit un financement de 5 ans derrière. S'il n'y a pas le financement de 5 ans derrière, je vais faire quoi? Je vais dire, on va recruter des profs. Donc il y a des personnes à qui je vais mentir en pleine face en disant, tu vas avoir un salaire, viens, quitte ton métier actuellement. Je vais voir des familles, puis dire aux familles, vos enfants, les envoyez plus travailler, envoyez-les à l'école pour un meilleur avenir. Donc des familles qui vont faire des gros sacrifices. Puis quand j'ai fait ciao bye, 3 mois après, il n'y a plus d'argent. Tout le monde va devoir se réinsérer, mais la nature a horreur du vide. Toutes ces personnes-là vont travailler 3, 4, 5 fois plus pour trouver leur place économique. Mmh. Donc, il faut regarder est-ce qu'il y a la capacité culturelle, la capacité en termes de connaissances et la capacité financière de pouvoir maintenir ce que j'ai fait, ce que j'ai déposé.
Mmh. Puis, ben, vous avez l'air d'avoir été en Haïti souvent. Puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai de la famille en Haïti. Puis, je ne sais pas si vous pourriez donner un état un peu actuel de la situation de coopération internationale ou d'aide humanitaire à cet endroit-là, parce que j'ai écouté beaucoup de trucs qui disaient, ben, pendant le gros tremblement de terre qu'il y a eu en 2010, il y a une grosse levée de fonds aux États-Unis qui a été envoyée par beaucoup de particuliers, mais cet argent-là a été beaucoup détourné. Puis moi, c'est un sujet qui m'inquiète parce que, tu sais, oui, tout le monde veut donner à... Ben, en tout cas, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beau. On donne à des communautés plus pauvres qui sont touchées par des catastrophes. Mais après, c'est difficile de ne pas être cynique quand on voit ces millions de dollars-là détournés. Donc, est-ce qu'il y a encore ces problèmes-là en Haïti ou dans d'autres pays dans le monde où est-ce que l'aide humanitaire sert un peu de camouflage à du détournement de fonds puis à de la corruption?
Alors, déjà, il y a deux choses Bah, une première chose à voir, c'est qu'est-ce qu'on entend par détournement de fonds ou corruption. Parce qu'il peut y avoir une perception de corruption, détournement de fonds. Je vous donne un exemple très concret. Quand il y a eu le tremblement de terre, le tsunami en Asie du Sud-Est, il y a le Secours catholique, au niveau mondial, a récupéré beaucoup d'argent. Et eux, bah, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit « Ok, c'est quoi le besoin ?» Et ils ont vu que la phase d'action humanitaire, c'était déjà saturé. Il y avait beaucoup d'organisations, on n'avait pas besoin d'eux. Ils ont dépensé 4% de leurs fonds dans cette période-là. Ils ont dit « Dès qu'il n'y aura plus de médias, dès que la poussière va retomber, tout le monde va partir. Et nous, on va investir notre argent à ce moment-là. » Et ils ont publicisé ça, ils ont montré leurs chiffres, c'était, tout était transparent. Et là, vous avez des médias qui sont arrivés, qui ont dit « Ah, mais regardez, ils ont dépensé 4% d'argent, c'est du détournement de fonds. » Et donc là, ils ont été accusés de mal gérer leur argent, de détourner, de voler l'argent, etc. Ça leur a fait une mauvaise com. Donc, il faut regarder entre le détournement et la perception de détournement. Maintenant, au-delà de ça, Haïti, il y a de la corruption. Mais de la corruption, on en trouve dans beaucoup de pays. Et la corruption, on peut le trouver aussi dans des États occidentaux. Il y a des enjeux de corruption partout. L'autre enjeu, par rapport à Haïti ou aux États qui sont faillis ou sur le point d'être faillis, le grand enjeu, c'est que je peux me faire racketter sur place. Le grand enjeu, c'est que j'ai besoin de payer pour faire mon action. Je pense à une ONG italienne en Somalie qui avait pour but de former les gens à l'agriculture. Un enjeu en Somalie, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ont perdu leur gagne-pain à travers la pêche. Et une ONG italienne s'est donné le mandat de former quelques milliers de personnes, je n'ai pas le chiffre en tête, d'anciennes familles de pêche à des familles agricoles. Et cette ONG italienne, elle se faisait racketter, elle se faisait agresser régulièrement par... des chefs de guerre locaux, cette ONG italienne a décidé de les payer. Et à partir du moment qu'elle a commencé à les payer, elle ne s'est plus du tout faite agresser ou embêter, quoi que ce soit. C'est de la corruption. Franchement, c'est de la corruption. Maintenant, est-ce que c'est justifiable? Alors, eux, selon leurs arguments, puis je l'ai présenté sous leur regard à eux. C'est clairement justifiable. Maintenant, moi, je suis un donateur. Est-ce que j'ai envie que mon argent serve à payer
un chef de guerre,
un chef de guerre local? Pas forcément. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je veux au final et comment je veux que ça arrive au final? L'autre enjeu, c'est comment je peux contrôler mes dollars qui vont du point A au point B. Ça aussi, c'est un enjeu. Donc, je donne à Sherbrooke maintenant, on va dire, $100 pour Haïti. Entre ici, Sherbrooke, et Port-au-Prince, ou Jérémy, ou département du Nord, vous avez mille et une façons à ce que mes $100 soient détournés ou autre. Et ça, ce n'est pas un fait qui est propre à Haïti, c'est un fait qui est propre à beaucoup de régions du monde. Donc, je suis désolé, je ne suis pas très optimiste sur ça.
Puis si, mettons, si ça peut aider, par exemple, si moi ou quelqu'un qui nous écoute aurait envie de donner... pour de l'aide humanitaire ou de la coopération internationale, pardon. Est-ce qu'il y a des ONG ou des instituts qui sont plus fiables que d'autres, par exemple, que vous pourriez conseiller pour les aider?
Oui, alors, en fait, je ne vais pas donner le nom de l'organisme, parce que je pourrais passer des heures, puis je n'ai pas envie qu'on vous accuse de favoritisme d'une organisation par rapport à une autre. Mais ce que vous pouvez faire, vous êtes des organismes qui vont vérifier les comptes des grosses organisations humanitaires. Il y a aussi un organisme au Canada, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le nom, mais au Royaume-Uni, il y a le Charity Office. Donc, si vous voulez donner ça à une OBNL britannique, vous allez sur le site du Charity Office, vous pouvez leur écrire en disant « Voilà, j'aimerais avoir les données de tel organisme. » Le Charity Office, c'est un peu comme le bureau de la vérificatrice générale au Québec. C'est un bureau qui va vérifier la bonne utilisation et la pertinence d'utilisation des fonds. Et donc, c'est pas l'organisme qui dit « Regardez ce que j'ai fait », c'est quelque chose qui appartient à l'État, qui va tout scruter à la lettre, qui va faire un rapport. Et généralement, c'est un rapport qui est sévère. Donc, c'est quand même intéressant, parce que vous allez voir les côtés où il pourrait y avoir amélioration. En France, c'est la Cour des comptes. Et vous avez un organisme au Canada, dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'en excuser, mais c'est, je pourrais le retrouver, puis vous l'envoyez par courriel si vous avez un site web. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, puisque sinon, on va donner toujours aux mêmes grosses compagnies. Oxfam, c'est un organisme qui est fiable. La Croix-Rouge, c'est un organisme qui est fiable. Médecins sans frontières, c'est un organisme qui est fiable. On en connaît peut-être 10 comme ça, le grand public en connaît 10, mais peut-être qu'on a envie de donner à quelqu'un d'autre à un moment, une fois. Donc,
Puis moi, si, parce que là, on est presque déjà rendu à la fin, là, donc après avoir parlé là, de différentes choses, là, on peut voir qu'il y a vraiment une différence entre l'aide humanitaire, la coopération internationale, puis que certaines facettes, là, je ne sais pas si c'est pour vous également, mais pour moi, les facettes que tu voyais, par exemple, en discussion ou dans les médias, les côtés négatifs de la coop qui, en fait, est un peu plus relié à l'aide internationale d'une certaine manière. Tu sais, j'ai souvent entendu parler du fait que mais on va aider, mais on ne reste pas là longtemps, puis on s'en va après, qui est vraiment plus, mettons, l'aide humanitaire que la coop. Est-ce que la coop, en général, fonctionne bien présentement? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, qui va bien et qui a un beau futur, là, si on peut dire, là, devant lui? Là?
La grosse question.
Oui.
J'ai envie de vous dire oui et non. Okay. Non, est-ce que ça fonctionne bien? Il y a des très beaux exemples. La Corée du Sud a bénéficié de la coopération internationale pendant longtemps. La Corée du Sud était un pays pauvre pendant longtemps. Les régions ne sont pas encore très riches. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises majeures sud-coréennes comme Samsung. Et la Corée du Sud a bénéficié aussi de coopération internationale dans le développement de sa culture.
Okay.
Et la culture sud-coréenne est en train de percer avec la K-pop, Netflix ou autre. C'est en train de percer. Donc la Corée du Sud a su dire non quand il fallait dire non. Bah, des fois, elle a dit oui, elle n'aurait pas dû dire oui, mais globalement, elle a su dire non quand il fallait dire non, elle a su dire oui quand il a fallu dire oui, et elle a su utiliser la coopération internationale pour se développer. Pourquoi ça marche en Corée du Sud ? C'est que les différentes administrations gouvernementales avaient comme une ligne directrice qui était le développement du pays, avec des idéologies un peu différentes, mais développement économique du pays. Et ils avaient aussi la capacité de dire non, ils ont pu appliquer leur souveraineté à fond. Les pays qui ne peuvent pas appliquer leur souveraineté à fond, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mmh. Et ce qu'il disait une des ministres des Affaires étrangères du Canada sous Stephen Harper, c'était Beverly Oda, je crois, elle disait le problème qu'il y a, c'est qu'on regarde combien d'argent il faut pour soigner toutes les maladies de type épidémie en Afrique. On regarde c'est quoi le montant qu'il faudrait sur une année. Et elle disait le problème avec ça, c'est qu'on a déjà donné 4 fois l'argent cette année.
Mmh.
Et les maladies sont encore présentes. Donc, oui, la coopération, encore des beaux jours devant soi. Oui, il y a beaucoup d'échecs. Sincèrement, il y a beaucoup d'échecs, il y aura encore beaucoup d'échecs. Mais des fois, il y a des beaux résultats qui arrivent. Le Kenya, par exemple, essaye de jouer sur la coopération internationale pour devenir un des pays les plus riches au monde. Le Kenya veut investir énormément dans l'intelligence artificielle. Et le Kenya n'a pas toutes les ressources en termes de compétences, mais ils veulent les acquérir. Et donc, du coup, ils jouent sur la coopération internationale. Ils jouent beaucoup avec la Grande-Bretagne et la France en ce moment, pour essayer d'attirer ses compétences chez eux, pour essayer d'attirer des investissements chez eux, à travers la coopération internationale, pour s'enrichir et pour pouvoir avoir un État de plus en plus puissant qui puisse financer l'école, l'hôpital, etc., etc. par la suite. Mais après, on pourrait citer pendant 10 heures des échecs.
C'est pas juste du négatif, en gros, si on le retient. C'est pas juste du négatif. Il y a des belles choses qui sont passées, qui se passent présentement, puis qui vont se passer aussi dans le futur.
Exactement. Ça demeure un outil.
Mmh. Puis peut-être une dernière question, je me demandais, de plus en plus on voit la montée d'une envie un peu d'indépendance des pays occidentaux par rapport, mettons, la montée des BRICS et tout. Est-ce que vous croyez que l'aide, la coopération internationale provenant de pays occidentaux va être de moins en moins bien reçue sur le terrain à cause de cette envie justement de souveraineté, ou on va quand même toujours rester des leaders dans le domaine?
Deux choses, en fait. Si on perd le leadership, ce sera à cause d'un leadership moral qu'on est en train de perdre. L'Occident perd son leadership moral en ce moment, pour plein de raisons.
Au profit, par exemple, de la Russie et de la Chine, en ce moment.
Il ne le remplace pas tant dans certaines régions du monde, comme le Sahel, oui, mais sinon, ça ne remplace pas tant. L'Occident perd son leadership moral et ne sait pas où aller en ce moment. Donc, il y a un enjeu sur ça. Par contre, le grand aspect, c'est l'aspect financier. On le voit, il y a beaucoup d'États qui ont, au début du conflit israélo-palestinien, on veut pas de l'Occident, on veut pas de l'Occident. Au bout de 10 jours, c'est en fait l'Occident, vous pouvez payer. Non, mais froidement, c'est ça. L'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés en Palestine, il y a le même enjeu. C'est, elle est financée à plus de 90% par des pays occidentaux et la Turquie. C'est, je crois, le plus gros donateur non occidental dedans. Et là, on est en train de sacrifier cette organisation, mais il y a personne d'autre qui veut mettre l'argent, la main à la poche pour le financer. Donc le problème, c'est que l'Occident devrait encore garder un gros leadership, pas politique ou moral, mais d'un point de vue financier, pour au moins les 20 prochaines années. La Chine, avec son problème des retraites, je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir s'investir autant que ce qu'elle a envie. La Russie a un gros manque de liquidité, puis est en train d'avoir une pyramide des arches qui s'inverse. Ça, c'est un gros enjeu. Donc dans les 20 prochaines années, je ne sais pas financièrement qui va accepter et qui va pouvoir, parce que ce sont les deux enjeux à regarder, financer à la place de l'Occident.
Mmh.
Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est sur ce que conclut notre balado. Donc, merci d'avoir été parmi nous pour cet épisode. Et on se revoit, en fait, là, on a tous un cours là, dans 30 minutes. Donc, c'est voilà. Ben, merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Merci, salut.